plus cet avenir qui se dessine. Les gens ne le connaissent pas forcément, donc j'ai envie de te demander d'abord de nous présenter ta mission et ta mission au sein de l'Office international de l'eau et nous dire ce qu'est l'Office international de l'eau.
Je travaille à l'Office international de l'eau où j'agis parfois en tant que conférencier sur toute la partie de développement des activités de notre association. Donc ça peut être la participation à des colloques, à des salons, à l'organisation d'événements. Au niveau donc des activités de notre association, on forme les professionnels du monde de l'eau. On fournit de la donnée, tout ce qui est données environnementales, données eau. On fait également de l'appui technique, institutionnelle et tous les enjeux de gouvernance. Et depuis 2022, on a un agrément protection de l'environnement d'une part et d'autre part sur le challenge de la formation des élus. Et je pense qu'il y a de nombreux élus qui ont besoin de compétences et de monter en sensibilisation et en formation puisque les élections, c'était il y a très très peu de temps pour un mandat qui se veut absolument essentiel, indispensable pour accélérer les projets en cours ou s'il n'y a pas de gros projets structurants, de pouvoir les démarrer.
Alors de quoi on parle ? On parle avec toi, on ne parle pas de n'importe quelle eau, on parle de l'eau douce. Combien représente cette eau liquide dans le monde ?
On a une jolie planète, la Terre bleue, la planète bleue. Mais en fait, sur l'intégralité de l'eau, on n'a que 3% d'eau non salée, ce qu'on appelle de l'eau douce. Et sur ces 3% d'eau douce, on a plus que 1% qui est de l'eau douce liquide. Et si on va un petit peu plus loin, l'eau douce liquide facilement accessible, c'est-à-dire au niveau des rivières, ne représente qu'une toute petite partie de l'eau. Alors j'aime bien l'imager, vous prenez une piscine olympique de 2500 mètres cubes et vous prenez un seau de 4 ou 5 litres et c'est à peu près dans ce seau de 4-5 litres la quantité d'eau de rivière par rapport à l'intégralité de l'eau sur la planète.
Ces prélèvements en France, alors là aussi il y a souvent des grandes passions autour de qui prélève, qui est le plus gros méchant par rapport à l'eau, qui doit changer, surtout pas moi, plutôt l'autre. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein, on a envie de dire non, c'est à côté, plutôt que changer soi-même. Alors il y a une différence que tu présentes toi entre prélèvement et consommation et ça j'ai trouvé ça très pertinent, raconte-nous.
Alors c'est vrai qu'on le voit notamment lors des débats publics, les acteurs de l'eau parfois et volontairement ne vont pas employer les mêmes mots et il y a une distinction forte à faire entre prélèvement et consommation. C'est-à-dire que quand vous prélevez, le verbe prélever, hein, je prends de l'eau, mais par contre vous pouvez prélever, utiliser et rejeter immédiatement après dans le même milieu cette eau. C'est-à-dire qu'en fait, vous prélevez, mais il n'y a pas de conséquences quantitatives sur la ressource en eau. La consommation, c'est très différent. Ça veut dire que vous prélevez et vous ne restituez pas, puisque vous la consommez, vous ne restituez pas l'eau au milieu dans lequel elle a été prélevée. Ce qui fait que là, il y a un impact sur la quantité d'eau.
C'est-à-dire que le plus gros préleveur, c'est le refroidissement de nos centrales nucléaires. Mais c'est un très petit peu un petit consommateur puisqu'il restitue l'eau un peu plus chaude. Il y en a un petit peu qui part en fumée, on voit, c'est en dessus, c'est de ces cheminées, donc de la vapeur d'eau. Mais sinon, elle repart un peu plus chaude dans les rivières, ce qui pose par ailleurs des problèmes, hein, qui peut en poser d'ailleurs à l'avenir dans des périodes de sécheresse. Le nucléaire peut aussi devenir une énergie intermittente. L'agriculture, à l'inverse, est le plus petit consommateur. Un des plus petits préleveurs, mais en revanche, il consomme beaucoup de cette eau puisque c'est pour produire de la viande ou de la matière végétale.
Exactement. Les centrales nucléaires vont prélever pour se refroidir des quantités astronomiques d'eau et les rejeter avec un delta de température. C'était pas si problématique il y a quelques années puisque les centrales nucléaires étaient en plein régime, particulièrement l'hiver. Ça devient problématique au moment des températures élevées estivales, puisque là, il y a une généralisation de l'usage de la climatisation, ce qui fait que les centrales vont fonctionner aussi bien maintenant à plein régime l'été que l'hiver. Et ça peut poser un vrai problème, puisque rejeter une eau à plus 4 ou 5 degrés en plein été, ça peut complètement modifier l'écosystème de la rivière, la potabilisation de l'eau. Et donc, il y a quand même une vraie question sur le développement du nucléaire, particulièrement l'été, avec des centrales qui pourraient être limitées, voire arrêtées. Et ça, c'est d'ailleurs déjà vu. Par contre, et c'est très juste, elles ne consomment, et heureusement d'ailleurs, que peu d'eau. À l'inverse, le monde agricole est un préleveur très, très raisonnable d'eau. Par contre, quand il prélève, c'est majoritairement l'été et il ne restitue que très peu à l'endroit où il a prélevé. Ça va être pour l'abreuvement des bêtes, ça va être pour l'irrigation des cultures. Et quand vous irriguez une culture, il y a un transfert d'eau liquide vers l'atmosphère. Il y a la consommation d'eau, ce qui est l'usage souhaité par les plantes qui vont ensuite évapotranspirer, mais il y a très peu de cette eau qui revient en fait au niveau du lieu de prélèvement. Et donc si on analyse à l'échelle d'un sous-bassin hydrographique entre juillet, août et septembre, il y a certaines zones en France où la consommation d'eau est en très grande majorité liée au monde agricole.
Quelles sont les projections? Alors là, on va se recentrer peut-être sur la France. Il va pleuvoir moins. Qu'est-ce qui va se passer?
On a la chance d'avoir aujourd'hui de la connaissance. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire il y a le réchauffement climatique et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé et dans combien de temps. On a des outils récents, comme une des 53 mesures du plan eau, qui est la mesure intitulée Explore 2, qui est un projet qui a été mené donc, par l'Office international de l'eau que je représente, Météo France et l'INRAE. Et en fait, on s'aperçoit que la quantité d'eau globalement va être à peu près identique sur l'année. Mais c'est sa répartition qui est radicalement différente et qui va... Par contre, il faut vraiment, et c'est tout l'intérêt de cet outil Explore 2, c'est que c'est très variable d'une région à une autre, et c'est même beaucoup plus précis que ça, puisqu'il y a des indications sur des échelles qui sont plutôt d'échelle communauté de communes. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, il y a autant d'eau à peu près qui va pleuvoir dans les années qui viennent qu'aujourd'hui, mais avec des pluies très fortes qui vont favoriser du ruissellement et des risques d'inondation. Et entre ces pluies fortes, il peut y avoir des périodes longues sans pluie et qui vont amener des sécheresses. C'est particulièrement gênant pour plusieurs raisons. D'une part, l'inondation va provoquer des dégâts, bien sûr. D'autre part, les sécheresses vont réduire la capacité de prélèvement et de consommation des quatre grands acteurs qui prélèvent l'eau. Et d'autre part, il y a une réduction en fait de l'infiltration de l'eau dans les sols. Et donc, il y a un risque de diminution de la recharge des nappes, même avec cette même quantité qui pleut tous les ans, mais qui ne permettra plus de recharger les nappes. Et là, on est sur une situation qui, si on ne désimperméabilise pas les sols et on ne favorise pas cette infiltration, peuvent être dramatiques dans les années qui viennent.
Riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man.
Alors nous sommes de retour et toujours avec Julien Louchard, donc de l'Office international de l'eau. On a vu avec toi, Julien, donc ces problématiques d'eau douce, la différence qui sont les gros consommateurs, les gros préleveurs, les bouleversements qui vont arriver avec le changement climatique sur cette ressource dans les nappes phréatiques. À l'Office international de l'eau, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au-delà du bilan, au-delà de la prospective, vous étudiez aussi les solutions. La première pour vous, c'est quoi? C'est quoi la base des changements à opérer?
C'est la réglementation. C'est-à-dire que vous avez... on ne peut plus construire et désimperméabiliser massivement comme il fut un temps. Donc en fait, l'urbanisme a changé pour favoriser l'infiltration de l'eau et réduire les risques d'inondation dont on a parlé tout à l'heure. Et puis au niveau de la sécheresse, Là, on parle d'un manque d'eau potentielle qui va réduire les capacités de prélèvement et de consommation des grands préleveurs d'eau douce liquide. Donc là, a été mise en place les restrictions qu'on retrouve sur un site qui s'appelle Vigieau. Et tous les jours, il est actualisé et vous avez des restrictions. Alors, la restriction, heureusement, y est associée des exemples de sobriété. Et donc, je peux donner quelques exemples comme ça, mais le citoyen, en fonction de la quantité d'eau disponible là où il habite, il va pouvoir ou non arroser son jardin, faire le complément de sa piscine ou remplir sa piscine. Et tout va dépendre en fait de la situation locale de l'eau. Pour l'entreprise, ça peut être une restriction radicale qui va aller jusqu'à une interdiction partielle, voire totale, de ces prélèvements en eau. L'objectif de ces restrictions, c'est que le concitoyen ait toujours de l'eau à son robinet. Et pour la première fois, on est sur une décennie où certains villages, malheureusement, ont été en grande difficulté et donc il n'y avait plus d'eau au robinet et ils ont reçu de l'eau potable par citerne.
Donc en fait, il y a tout un système à changer. C'est ça que vous préconisez, vous, en plus de cette restriction qui est brutale, qui arrive juste quand on manque, mais qui ne prévient pas le manque.
La restriction, elle est subie. Et elle apporte des contraintes et même des risques de viabilité, de pérennité pour les entreprises, pour le monde agricole qui se voit en difficulté ou en interdiction de pouvoir abreuver ses bêtes ou irriguer ses cultures. Donc en fait, il faut anticiper et trouver des solutions. Alors, il y a donc deux grands sujets avec le réchauffement climatique. On a dit les inondations. Donc, il faut absolument favoriser ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, les zones humides, les espaces éponges. C'est-à-dire que comment peut-on, au niveau de l'urbanisme, au niveau des choix fonciers, favoriser l'infiltration de l'eau pour alimenter les nappes phréatiques et réduire le plus possible tout risque d'inondation. Et donc ça, c'est des solutions...
C'est-à-dire que plus que jamais, en fait, on a tendance à les détruire pour certains projets. Les zones humides, il n'est même pas question de les sauver, il faudrait presque en recréer.
Tout à fait. Les zones humides, faudrait les sacraliser. Elles ont cette capacité d'éponge, elles ont aussi d'autres atouts. Lié à un formidable écosystème, donc c'est la biodiversité. Et puis ce sont aussi des puits carbone, et rappelons-le, ce sont les gaz à effet de serre qui sont à la source de ce déséquilibre de l'eau. Donc les zones humides doivent, tant que possible, être favorisées, démultipliées sur le territoire. Et puis à chaque fois qu'il y a un aménagement urbain, il faut avant tout favoriser des médias perméables, que ce soit un parking, des trottoirs, de l'aménagement de rond-point. Comment faire pour que l'eau s'infiltre et surtout n'aille pas engendrer des dégâts parce que c'est la double peine. Je n'alimente pas une nappe phréatique d'une part et d'autre part, je favorise le dégât en aval. Et par contre, on va indiquer, oui, mais c'est potentiellement ou réellement beaucoup plus cher. Certes, mais si dans votre taux de retour sur investissement ou dans votre business plan, vous prenez l'impact d'une nappe phréatique vide et l'impact d'une inondation, donc tout dépend en fait des hypothèses que l'on met, c'est un investissement qui est extrêmement logique, qui devrait presque être obligatoire, et de rendre perméable que ce qui techniquement ne peut et ne doit être perméable.
on va avoir des épisodes de plus en plus violents, des crues, des hausses des rivières brutaux, tout ça allant vers la mer, comme beaucoup disent, ou causant des problèmes d'ailleurs d'inondations qui pourraient être résorbés par des retenues. Les retenues d'eau, pour vous, c'est une solution? Est-ce que les méga-bassines, les retenues collinaires, est-ce que ce sont des solutions ou pas?
Alors, c'est un sujet complexe et malheureusement, on est très souvent limité dans le débat. C'est évidemment une solution à étudier et l'étude doit montrer si c'est une solution viable ou si c'est malheureusement pour le territoire une mauvaise solution. Si vous prélevez dans une nappe phréatique en plein hiver, que cette nappe phréatique, il y a une connaissance très partielle de sa volumétrie, de ses conditions de remplissage, de sa superficie, et bien là il y a un risque, puisque vous allez prélever dans une nappe phréatique avec une connaissance totalement imparfaite pour stocker des gros volumes qui, on le sait, vont en partie s'évaporer et avec une qualité qui va se dégrader. À l'inverse, si vous stockez de l'eau de pluie d'une toiture, ça peut être tout à fait pertinent pour ensuite la réutiliser ou l'infiltrer au bon moment, ou en les troisièmes exemples pour le plaisir, une rivière sur débit en plein hiver, au moment où cette rivière va se rejeter dans une eau salée, il est envisageable intuitivement d'étudier sa captation partielle, sa rétention pour un usage dans des périodes estivales. La conclusion, c'est que on n'est pas obligé de tout planifier pour un partage de pénurie. On peut anticiper, stocker intelligemment et se partager une ressource qui est plus abondante pendant les périodes sèches. Il faut absolument continuer à étudier, à partager et à réfléchir avec tous les acteurs de l'eau. Et il ne faut pas qu'il y ait de parti pris ou de dogme sur ce sujet, à mon sens.
L'eau, il est peut-être intéressant de la faire rentrer dans des circuits. En fait, on essaie de faire de l'économie circulaire. Il faudrait peut-être aussi la faire avec l'eau. La France le fait assez peu. L'Espagne, qui a de vraies pénuries, le fait beaucoup. Avec ses eaux usées, avec la réutilisation des eaux, tu en as parlé dans ta conférence, des eaux de piscine. Est-ce que il n'y a quand même pas un risque, il n'y a pas des précautions à prendre à ce niveau, à ce niveau-là?
À nouveau, tout comme le stockage de l'eau, il va falloir étudier. C'est-à-dire que quand on prélève, par exemple, une station d'épuration urbaine va traiter toutes les eaux qu'on a prélevées et après traitement va les rejeter dans la rivière. Ça permet notamment le débit d'étiage de la rivière et son alimentation. Si une partie trop forte de cette eau était réutilisée pour une activité qui n'existait pas, une nouvelle activité très consommatrice d'eau, bah finalement, oui, on fait...
Comme des data centers.
Exactement. Et donc là, dans cet exemple-là, bah, on fait un projet de réutilisation des eaux usées traitées, donc ça a l'air noble. Mais si on regarde l'analyse de cycle de vie, le bilan global, c'est pas forcément pertinent. Que ce soit pour les eaux de piscine, la réutilisation des eaux usées urbaines ou industrielles, il est indispensable de raisonner en termes d'analyse de cycle de vie pour s'assurer que le projet, en plus d'être viable et pertinent au niveau de l'eau, est également intéressant d'un point de vue carbone, kilowattheure. Donc il faut pas raisonner que eau, il faut vraiment raisonner eau, énergie, réactif. Et la dernière question aussi, c'est que il faut, sans être surprotectionniste, s'assurer que tous les projets de recours aux eaux non conventionnelles sont, d'un point de vue sanitaire, sans contrainte vis-à-vis des usagers, des cultures, des animaux. Donc il y a quand même une partie sanitaire où il est normal que ces projets-là mettent un petit peu de temps et qu'on ne puisse pas faire une accélération brutale pour rattraper un retard. On est en retard et il faut développer des projets intelligents.
Notre consommation a baissé ces dernières années. On est passé de 180 litres par personne, tu me l'as dit, pour nos usages domestiques, notre petite vie hein, et nos usages récréatifs, à 150. Je pensais qu'avec l'usage des piscines, par exemple, la généralisation des piscines dans beaucoup d'endroits, je croyais que ça aurait augmenté, mais non, on a baissé individuellement notre consommation d'eau. Mais ce sont des solutions donc collectives qu'il faut trouver. L'individuel est important, mais c'est le collectif. On aurait pu parler évidemment de la réduction de la grosse perte d'eau potabilisée sur les réseaux. On aurait pu parler des solutions telles que les toilettes sèches pour l'individuel, les économies dans les bâtiments publics qui sont possibles là aussi, qui peuvent amener de grosses économies. Mais j'ai envie pour le mot de la fin, peut-être que tu donnes un mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs de l'ours et la carotte pour finir, avant de leur donner des conseils de sites pour se renseigner?
Alors, en conseil, le sujet de l'eau et du changement climatique sont assez angoissants. Mais, et c'est quand même la bonne nouvelle, en fait, on a des retours d'expérience, on a des exemples, on a des trajectoires, on a de la connaissance qui font que finalement, on a une bonne vision du défi, on a des solutions qui nous permettent d'atteindre ce défi, si tant est évidemment qu'on les prenne tous ensemble. C'est un petit peu comme... Alors tous ensemble ou pas même, parce que c'est comme la fable du colibri, hein, chacun doit faire sa part à son échelle. Je vous invite à aller sur un site internet qui est assez sympa. Alors, je vous avais cité Explore 2. Vous pouvez évidemment aller sur ce site. Et vous avez également l'outil Aqueduc du WRI, World Resources Institute. Et allez...
Celui-là est en anglais, il faut prévenir quand même. Il n'y a pas la version française.
Exactement. Là, bon, ça vous fera un petit cours d'anglais. Et donc, le water stress, qui est le stress hydrique, vous allez avoir une carte mondiale et vous allez certainement avoir des surprises. C'est très sympa, c'est assez pédagogique et vous allez vous rendre compte qu'il y a des zones où on pensait que c'était sans contrainte au niveau de l'eau. Et les projections à 2050-2080 montrent que non. C'est lié aux différents préleveurs, c'est lié à la présence ou non de nappes phréatiques. Et puis, vous avez des zones où, finalement, qui sont a priori plutôt agréables pour les prochaines décennies. Et ça, ce sont des projections on ne fait pas énormément de choses. Et moi, je suis un éternel optimiste. Je pense qu'il y a plein de métiers, il y a plein d'envies. On n'a jamais autant parlé de ce sujet. On n'en parlait pas il y a 25 ans ou qu'entre experts. Donc, mon mot de la fin, il est assez simple. Haut les cœurs et il n'y a plus qu'à. On a des solutions et ensemble, on va réussir. Et de toute façon, on n'a pas trop le choix.
Merci Julien Louchard. Au revoir.
Au revoir, merci à vous.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
HDR.
C'est sur le
99.1.
Le mix.
Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, de Chicago à Paris.
Les années de jazz,
l'émission présentée par Michel Jules vous emmènera dans un tourbillon musical où le passé rencontre le présent.
Chaque samedi, de 18h à 19h sur Radio HDR,
laissez-vous porter à travers les décennies pour un voyage sonore unique. Venez découvrir les anecdotes, les mélodies, les rythmes, les chefs-d'œuvre et les grandes figures qui ont fait l'histoire du jazz.
Ne manquez pas notre rendez-vous de jazz hebdomadaire tous les samedis de 18h à 19h sur Radio HDR et en rediffusion le mercredi à 19h.
Alors préparez-vous à swinguer et à vibrer avec les années de jazz, l'émission animée par Michel Jules sur Radio HDR 99.1 FM.
Kumikata Station, c'est votre émission reggae un mardi sur deux de 18h à 20h
sur la Radio HDR.
deux heures de reggae sur vinyle, des infos du mouvement Sound System, des invités.
C'est Kumikata Station,
animé par Liviti, un mardi sur deux sur le 99.fm, en live sur le Facebook de la radio HDR, page Facebook Kumikata Station. Alors n'oubliez pas, un mardi sur deux, c'est Kumikata Station de 18h à 20h sur Mix des Cultures.
Retrouvons-nous pour l'entrefa.